Timothée, serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu toute ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris, tous, avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.
Merci Sylvette. David, c'est bon ? D'accord, je vais prier. Prions. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, tout ce que nous donnes. Merci pour ta parole. Nous voulons te demander de nous aider à t'écouter ce matin, d'écouter ce que tu as à nous dire dans ta parole. Adoucis nos cœurs. Donne-nous des cœurs qui ont envie de t'écouter et de mettre en pratique ce que tu nous dis. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Pas du tout, en fait, mais peut-être que vous pouvez me dire qu'est-ce que cette image représente. Est-ce que quelqu'un peut me... Merci, c'est un niveau à bulles. Alors, après avoir mal posé la vitrine devant qui est dans la cour devant, donc elle est un petit peu de travers. Moi, je fais attention maintenant d'utiliser un niveau à bulles quand je dois poser quelque chose sur le mur. C'est quand même mieux quand les choses sont bien alignées, bien droites. Alors, je tombe dans un intendant de bâtiment officieux, Jean-Joël, c'est vrai, n'est-ce pas, non ? C'est bien d'avoir des choses bien droites. Alors, pourquoi est-ce que je parle des niveaux à bulles ? Alors, je vous soumets que cette petite épître sur laquelle nous allons nous pencher jusqu'au mois de juin ressemble à un niveau à bulles. Alors, pourquoi ? L'église de Philippe est une église modèle, une église qui va bien. Alors, cela ne veut pas dire qu'elle est une église parfaite ou qu'elle n'a pas de progrès à faire. Non, bien sûr que non. Mais cela veut dire, en gros, qu'elle est une église qui va dans le bon sens, qui fait du progrès, qui ne s'est pas écartée du chemin que Jésus a tracé, que les apôtres ont tracé, mais elle a placé Jésus au centre de ses affections. Elle a placé l'Évangile au centre de ses préoccupations. Alors, cet épître est notre niveau à bulles. Nous pouvons nous comparer à cette église pour savoir si nos attitudes, nos comportements, nos ambitions, nos rêves sont bien alignés, bien centrés sur l'Évangile et sur Jésus. Alors, je pense que ça ne sera pas un exercice très confortable par moment. Alors, nous étudions le jeudi soir l'épître de Paul aux Corinthiens, dans les ateliers bibliques. Et c'est vrai que c'est plus simple de se comparer à une église qui a des problèmes, où il y a du désordre, et on se dit « Ah ben merci Seigneur, c'est vrai, il n'y a pas autant de désordre ici, on n'est pas si mauvais que ça. » Alors, mais se comparer à une église qui carbure, qui va de l'avant, bah, ce n'est pas si rassurant que ça. Pourquoi ? Parce que souvent, trop souvent, nous nous contentons d'un évangile au rabais. Un peu d'évangile fait du bien. Ça rassure, ça pacifie nos craintes, ça nous aide à ordonner nos vies, à structurer notre semaine, à faire des amis, à avoir une vie sociale. Mais trop d'évangiles, Bah, l'évangile prise au sérieux, ça commence à en faire, à déranger un tant soit peu. Alors nous vivons une époque où la société nous dit constamment et de multiples manières que l'évangile, notre foi, n'appartient qu'à la sphère privée, à la vie privée, de l'ordre de l'opinion. Et que ces choses n'ont plus lieu d'être sur la place publique, à la télé, à l'école, au travail, dans le discours public. On a d'abord les valeurs universelles, celles de la République, qui, fort heureusement, sont souvent des valeurs protectrices. Et ensuite, nos valeurs personnelles, tolérées tant que ces dernières ne dérangent pas l'ordre public. Alors, ce n'était pas si différent à Philippe non plus. Alors, Philippe se trouve au nord de la Grèce. C'était une colonie romaine peuplée de citoyens romains. Alors, cette photo, si vous la voyez, montre les vestiges de Philippe. Et ces vestiges laissent entreapercevoir quelque chose de la grandeur d'autrefois de cette colonie prestigieuse. Philippe était un petit coin de Rome en Grèce, avec des coutumes, des traditions, des lois qui venaient directement de Rome. Et l'empereur de cette ville était le seigneur de cette ville. À cette époque de l'Empire romain, on appelait les empereurs par les titres seigneur et sauveur. On les traitait de Dieu. Alors on commence à mieux comprendre pourquoi ce n'était pas facile d'être un témoin de l'Évangile à cette époque-là. C'était politiquement incorrect. Incorrect de parler de Jésus comme le seul seigneur, le seul sauveur. Non pas de l'Empire romain seulement, mais de tout l'univers et de l'humanité tout entière. C'était perçu comme politiquement subversif. Les chrétiens proclamaient que Jésus était le souverain ultime, le roi des rois, au-dessus de la République de Rome, au-dessus de César. Que c'était Jésus seul qui décide quelles sont les valeurs ultimes, les valeurs qui font foi. Alors, dans un contexte pareil, si on voulait vivre confortablement, bah, sans faire de vagues, sans perdre ses privilèges, l'estime des voisins, mieux valait se taire, s'éclipser, réduire sa foi à la vie privée, adopter un profil bas, un évangile au rabais. Un peu d'évangile quand même, ça fait du bien, mais quand même pas trop. Mais ce n'est pas le cas des chrétiens de Philippe. Nous verrons qu'ils combattaient côte à côte, d'un même cœur, pour la foi de l'évangile. C'est-à-dire, ils annonçaient à qui voulait l'entendre que l'évangile était vraiment vrai, une vérité publique avérée, que Jésus, le charpentier juif, mort sous la gouvernance de Ponce Pilate et ressuscité le troisième jour, était en effet le roi, le souverain, le juge de tout être humain. Alors, l'apôtre Paul écrit cette lettre de sa prison. Il est le prisonnier de l'Empire romain. Soit à Éphèse, aux alentours de 55 après Jésus-Christ, soit à Rome, vers 60 à 62 après Jésus-Christ. Je pense que c'était plutôt à Rome. Le chapitre 1, plus loin, va parler du prétoire. Et ensuite, juste à la fin, au chapitre 4, il parle de l'entourage de l'empereur. En tout cas, Paul écrit du siège du pouvoir de l'Empire romain. Mais pourquoi est-ce qu'il écrit cette lettre? Qu'est-ce qui le motive? Paul, face à la menace de la mort d'une exécution judiciaire, écrit à ses amis pour les encourager à tenir ferme dans la proclamation publique de l'Évangile, pour les encourager à tenir ferme dans une vie centrée sur Jésus, centrée sur l'Évangile. Il n'y a rien de tel que la menace de la mort pour préciser la pensée d'un homme. Et Paul va à l'essentiel. Et dans cette introduction à cette lettre, dans les premiers versets, Paul parle de ses amis à Philippe avec beaucoup de reconnaissance et de joie. Alors nous allons nous pencher sur cette introduction en deux temps. Dans les versets 3 à 7, Paul explique la source et la raison de sa reconnaissance et de sa joie. Ensuite, au verset 8 à 11, Paul leur explique la conséquence de cette joie. C'est la conséquence, il est poussé à prier, à remettre les Philippiens entre les mains du Seigneur. Donc d'abord, la joie d'un partenariat, et puis dans un deuxième temps, l'amour d'un partenaire de prière. Et c'est ma prière ce matin que ce passage nous inspirera un partenariat et une vie de prière authentiquement évangélique, centrée sur la bonne nouvelle de la vie nouvelle en Jésus. Alors la joie d'un partenariat. Paul est beau, un homme enchaîné dans une cellule romaine. Il commence sa lettre en parlant de sa reconnaissance et de sa joie. Cela en dit long sur la ténacité de cet homme, de cet serviteur de Jésus. Et ce sont tous les Philippiens qui le rendent reconnaissant. Ce sont tous les chrétiens de Philippe qui réjouissent son cœur. Jetez un coup d'œil sur le passage. Il écrit cette lettre à tous les saints, donc c'est-à-dire tous les chrétiens de Philippe. Verset 4. Dans toutes mes prières pour vous tous. Verset 7. Il est juste que je pense cela de vous tous. Alors Paul ne parle pas qu'au conseil de l'Église ou aux responsables d'activité seulement. Mais il parle vraiment à toutes les personnes qui fréquentent cette Église, des jeunes, des plus âgés, des chrétiens qui viennent de donner leur vie au Seigneur, comme aux vétérans de la foi. Il parle à tout le monde. Et Paul rend grâce à Dieu pour chacun d'entre eux. Alors pourquoi Paul est-il si content, si rempli de gratitude envers Dieu pour ses Philippiens? Il rend grâce à Dieu, il est dans la joie, parce que Paul voit que tous les chrétiens de Philippe participent à l'œuvre de l'Évangile. Donc regardez les versets 3 à 5. « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Alors littéralement, ce petit mot « prendre part à l'Évangile » traduit l'expression « la communion », à cause de la communion dans l'Évangile. La communion fraternelle, c'est un mot, une expression ô combien chrétien. Ça fait partie du patois de Canaan, les mots que les chrétiens utilisent. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand on évoque l'idée, l'expression « la communion fraternelle ». Peut-être vous pensez au moment béni entre chrétiens, un temps de prière particulièrement fort, peut-être des amitiés chrétiennes, des échanges, le fait de chanter ensemble, peut-être de prendre une collation après le culte. Mais la traduction ici, « prendre part à l'Évangile » est une très bonne traduction. Cela renvoie à l'idée d'un partenariat, actif, comme dans le monde d'affaires. Il y a quelques années, en fait à peu près il y a 10 ans, j'ai créé une entreprise avec quelques collègues. Nous avons quitté nos travaux respectifs et nous nous réunissions tous les matins dans le salon d'un de ses amis. Nous avons fait des études de marché ensemble. Nous avons écrit un plan d'action. Nous avons écrit aux investisseurs potentiels. Nous avons lancé cette affaire ensemble. D'ailleurs, en attendant de trouver un meilleur nom, nous avons donné le nom « entreprise mutuelle » à cette entreprise. Parce que nous étions des partenaires, ensemble, solidaires, travaillant côte à côte, avec l'objectif commun de faire décoller notre entreprise, de se faire coter en bourse, de faire beaucoup d'argent, etc. Ce que nous n'avons pas réussi à faire. Mais bon. Mais Paul est dans la joie parce que chacun des chrétiens dans cette église de Philippe est devenu un partenaire dans le travail de l'Évangile. Alors le partenaire est beaucoup plus qu'un simple actionnaire qui ne prend pas qu'au risque financier de l'entreprise. Le partenaire prend part au travail. Il partage les risques. Il participe aux efforts. Il est dans l'affaire, nuit et jour. Il est solidaire. Il marche dans le même sens. Alors, est-ce que vous voyez, est-ce qu'on a cette vision-là de l'Église? Je pense que ça peut être tentant parfois de voir l'Église comme un simple fournisseur de prédication ou d'actes comme la scène ou le baptême, d'enseignement, peut-être une institution pour célébrer les mariages ou pour se faire enterrer, ou un lieu où on peut faire des amis. Mais les Philippiens n'y allaient pas en tant que consommateurs, mais pour y prendre part. Ils étaient des partenaires dans l'œuvre, dans le travail, dans le but commun de l'Évangile. Mais si on lit attentivement ce que Paul dit exactement, la vraie source de sa joie n'est pas tant ce qu'il voit, ce partenariat, cette entreprise mutuelle, mais ce que cette entreprise mutuelle, cette communion, indique ou confirme. Ce partenariat montre que Dieu lui-même est bel et bien à l'œuvre. Jetez un coup d'œil sur le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. La confiance de Paul n'est pas tant dans les Philippiens eux-mêmes qu'en Dieu. Il voit que Dieu a commencé, vraiment commencé quelque chose. Et si Dieu a vraiment commencé quelque chose, il l'achèvera, il la terminera. Il y a un célèbre hôtel en Corée du Nord, dont je ne vais pas prononcer le nom, on va demander à Yuming après, mais il a été commencé dans les années 80. Il est immense. Il devait y avoir 3000 chambres, mais il n'a jamais pu être achevé. Faute de moyens financiers. C'est un monument à la folie de l'homme. Un tour de Babel de l'époque moderne. Mais Dieu, en revanche, termine ce qui commence. Dieu n'est pas un bâtisseur sans moyens ou un artisan mégalomane, irréaliste ou rêveur. Si Dieu commence quelque chose, il poursuit son œuvre jusqu'à l'achèvement, jusqu'au terme, car il est fidèle. Il ne change pas d'avis, il ne manque pas de moyens. Et le terme de Dieu, le but pour chacun de nous, se réalisera au jour de Jésus-Christ, c'est-à-dire au jour de son retour, comme Matthieu a pris, en fait, d'ailleurs, lorsque Jésus va revenir comme Seigneur et Sauveur, pour juger le mal et pour renouveler toutes choses. Paul voit les chrétiens de Philippe, il connaît leur histoire. C'est Paul lui-même qui a fondé cette église. On peut lire le récit dans les Actes des Apôtres. Mais il sait que le vrai fondateur de cette église, c'est Jésus. Alors l'Épître aux Hébreux nous dit que la foi authentique persévère jusqu'à la fin, qu'elle n'abandonne pas en cours de route. Mais c'est Dieu qui donne cette foi-là. C'est Dieu qui commence l'œuvre et c'est Dieu qui fait persévérer. C'est Dieu qui achève l'œuvre. Notre confiance doit rester centrée sur lui et jamais sur nous-mêmes, sur nos efforts. Ceci dit, nos efforts montrent que la foi est en train de porter du fruit. Et la foi qui persévère jusqu'à la fin porte du fruit. Et c'est pour ça que Paul voit ce partenariat et il dit, ça c'est la foi authentique à l'œuvre. Au verset 7, il dit, il est juste que je pense cela de vous tous. C'est-à-dire, il sait qu'il n'est pas à côté de la plaque dans ses propos. Il sait qu'il n'est pas en train de se leurrer. Parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. Mais qu'est-ce qu'il voit exactement, Paul, dans ce partenariat ? Il voit une église qui ne lâche pas le partenariat quand les choses deviennent corsées, quand les choses deviennent difficiles. La grâce à laquelle tous participent, c'est la grâce de participer à l'avancement de l'Évangile. Cette église reste solidaire de son apôtre, reste solidaire de son enseignement. Cet enseignement qui semble si subversif aux oreilles des autorités, à notre Seigneur, à notre Sauveur. Un enseignement qui les attire des ennuis. Mais malgré tout cela, ils tiennent ferme dans l'annonce comme dans la défense de l'Évangile. Cette Église tient à proclamer de manière publique, semaine après semaine, cette vérité que Jésus, l'homme de Nazareth, né à l'époque de César Auguste, crucifié sous le gouvernement de Ponce Pilate pour porter nos péchés, rendu à la vie par Dieu lui-même, au vu et au su d'au moins 500 témoins, c'est lui, le vrai souverain de l'univers, le vrai Seigneur et Sauveur, notre roi légitime, notre Créateur, à qui nous devons tous rendre des comptes, mais en qui tous, chacun de nous peut trouver le pardon et l'amour de Dieu. Ça, c'est le cœur du partenariat, le métier principal de cette entreprise mutuelle, l'annonce, la défense de la vérité publique de la bonne nouvelle. Et les Philippiens se tiennent côte à côte avec leur apôtre. Ils ne diluent pas ce message. il ne le rend pas plus avalable, plus digérable, plus acceptable. Ils ne choisissent pas de se focaliser sur des activités associatives plus politiquement correctes. Ils ne transforment pas l'Église en club social ou en dispensaire de rites religieux. L'Évangile, la bonne nouvelle, Jésus lui-même est leur métier principal. Et cela réjouit le cœur de l'apôtre. Je réfléchissais il y a 10 jours au progrès de notre petite église. Ça fait à peu près 18 mois que nous avons des cultes ici le dimanche matin, et puis à peu près 2 ans et demi que nous avons commencé cette implantation d'église. Et je me suis rendu compte en y pensant que beaucoup de gens s'impliquent dans l'œuvre de l'Évangile ici, que beaucoup sont devenus des partenaires solidaires dans le travail, par la prière d'abord, dans l'accompagnement fraternel, spirituel, le souci fraternel de l'autre, les visites, les coups de fil, dans les finances, les dons, les travaux, par l'enseignement, le jeudi soir, dans l'école du dimanche, et directement aussi dans l'annonce et le partage de l'Évangile avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, dans les associations de la ville, lors du club de la bonne nouvelle, sur les lieux de travail, au marché, au culte, aux événements, à la maison, à l'école, au lycée. Et c'est vraiment réjouissant. Gardons l'annonce, la défense, la mise en pratique de l'Évangile comme notre métier principal, la mission centrale de l'Église locale. L'amour d'un partenaire de prière, en deuxième partie. À partir du verset 8, Paul commence à parler d'un autre sentiment. C'est un sentiment très fort qui montre le pasteur en Paul. Verset 8. « En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. » Alors rassurez-vous, Paul n'a pas succombé au sentimentalisme, loin de là. Le fait d'être partenaire dans le travail de l'Évangile crée des liens forts. Une section dans l'armée qui passe par une guerre ensemble en ressort soudée. Ça crée des liens qui dépassent la simple amitié, qui dépassent le fait de s'apprécier ou d'avoir des choses en commun. En effet, le chrétien engagé dans l'œuvre va vouloir, par amour, par solidarité, va vouloir prier pour ses co-ouvriers. Quoi de plus normal ? Et Paul est en train de montrer un autre aspect de ce partenariat dans l'Évangile, dans le travail de l'Évangile. Alors, quoi prier et comment ? Paul, comme un bon parent, prie que ses enfants, dans la foi, aient ce qui est le mieux. Alors, Dieu nous dit dans sa parole que nous pouvons remettre tous nos soucis, prier vraiment pour les petites choses comme pour les grandes, parce que Dieu prend soin de nous. Mais le modèle de prière que Jésus nous laisse, notre Père, et le modèle que Paul nous laisse dans ses prières différentes, et dans celle-ci en particulier, est un modèle de prière centré sur l'Évangile et les priorités de l'Évangile. Et encore une fois, la perspective de Paul est rivée sur l'avenir, ce que vous le voyez au verset 10. Il reparle du jour de Christ, le jour quand Jésus va revenir pour juger et pour sauver. Alors, chrétiens modernes et postmodernes que nous sommes, c'est vrai, nous ne pensons pas beaucoup à ce jour-là, je pense. Comme notre société, nous avons souvent tendance à vivre pour le moment présent, à profiter du jour présent, la mort, la fin de vie, le but, ce qui vient après. Bah, tout cela, c'est un peu le tabou par excellence. Pourtant, quand l'Évangile nous saisit, continue, saisit, il rive, il oriente nos yeux sur ce jour-là, la fin, le but, le jour de Jésus. Tout comme une mère, en l'occurrence ma mère dans cette photo, veut que sa fille, donc ma petite sœur dans cette photo, soit resplendissante, belle, parfaite pour le jour de son mariage. Le chrétien engagé dans le travail de l'Évangile, et parce que ce partenariat crée de tels liens, il veut que ses frères et sœurs soient resplendissants, beaux, parfaits, pour le jour quand l'époux, notre Seigneur et Sauveur, vient nous chercher. Les versets 10 et 11 décrivent cette beauté ainsi. « Pure et irréprochable, remplie du fruit de justice qui vient par Jésus. Alors c'est facile de dire que tout ça c'est irréaliste. Alors jusqu'à un certain point, c'est vrai, le chrétien reste un pauvre pécheur, un être humain bien faible. Mais Dieu nous a saisis, il nous a adoptés en vue du changement. Il veut qu'on vive pour lui, selon l'évangile, centré sur l'évangile. Il veut qu'on ressemble de plus en plus à son fils. Mais il ne nous abandonne pas à nos piètres efforts. Ce fruit vient par Jésus-Christ. C'est Jésus qui donne le vouloir et le faire. Alors, est-ce que vous voulez que la personne qui est assise à côté de vous, ce partenaire dans l'œuvre, est-ce que vous voulez que cette personne rencontre le Seigneur, son Sauveur, de cette manière-là? Est-ce que vous avez ce désir? Que cette personne soit resplendissante, obéissante, pleine d'œuvres de justice, d'amour sacrificiel, de service humble, toutes ces choses qui témoignent de la grâce de Dieu, le pardon de Dieu dans leur vie. Un partenaire dans l'œuvre de l'Évangile prie pour les autres partenaires avec ce but en vue. Alors, quelques-unes des filles de l'Église ont pris l'initiative de prier ensemble avant la réunion du jeudi soir. Je trouve que c'est une belle initiative. C'est vraiment bien de prier souvent de manière informelle les uns pour les autres, à deux ou à trois, à quatre, pour partager les choses, pour chercher la face du Seigneur, pour s'encourager. On en a besoin. Et tout ça, c'est devenir partenaire ensemble dans le travail de l'annonce, la défense et la mise en pratique de l'Évangile. Le calendrier de prière qui se trouve sur la table à l'entrée est une autre initiative qui nous aide à prier les uns pour les autres, afin que nous soyons des partenaires des uns des autres. Le premier jeudi du mois, c'est aussi le moment de prier pour la mission de l'Église. Mais comment devons-nous prier au juste? Comment ces fruits de justice vont-ils venir? Alors, verset 9, Paul dit: voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Alors, il ne prie pas que ses partenaires soient remplis d'un amour sentimental, mais d'un amour qui connaît, qui est intelligent, qui est perspicace et qui est sage. Mais connaître quoi ou qui? Paul parle ici sans doute de la connaissance de Dieu, de ses voies, de son cœur. La connaissance biblique est toujours quelque chose de relationnel. Elle nous entraîne vers Dieu. Elle nous conduit à mettre notre confiance en lui, à le louer, à l'aimer, à aimer notre prochain. Ce n'est pas simplement de l'information factuelle, une connaissance académique pure, la capacité de citer des versets ou de participer à des débats théologiques. Il faut connaître la Bible, c'est vrai, mais il faut surtout connaître Dieu en lisant sa parole. Et cette intelligence dont il parle est sans doute une intelligence morale, une perspicacité, une clairvoyance qui nous aide à nous humilier devant Dieu. On ne peut pas grandir en Dieu, en sa connaissance, en son amour, si nous vivons dans l'amertume, l'ambition personnelle, l'immoralité, le matérialisme. Cette intelligence, cette connaissance nous conduit à une repentance sincère, à chercher le pardon bienfaisant et libérateur de notre Créateur. Et c'est ça ce qui nous équipe à vivre pour Dieu, à discerner ce qui lui plaît, à porter ses fruits de justice qui viennent par Jésus. Une connaissance humble de lui, un amour qui le connaît et qui vit pour lui. Voilà la prière de quelqu'un qui veut que ses frères et sœurs soient beaux, remplis de justice au jour de Jésus. Non pour l'approbation du chrétien, mais pour que Dieu soit loué en ce jour-là. Alors, en guise de conclusion, Paul nous dit que nous ferions bien d'aligner notre vie d'église sur celle de l'église de Philippe. D'utiliser cette lettre comme un niveau à bulle, l'église de Philippe n'est pas une église parfaite, elle n'est pas sans problème, mais elle va dans la bonne direction. Elle est centrée sur l'évangile. Elle est centrée sur les priorités de l'évangile. Tous, chacun des membres, malgré les difficultés, sont devenus partenaires dans le travail dans l'œuvre de l'annonce, de la défense, de la mise en pratique de la bonne nouvelle d'un Seigneur, d'un roi universel qui est mort et ressuscité pour que nous puissions connaître le pardon et l'amour de Dieu. C'est vrai que l'exemple est un vrai défi, mais il nous montre le vrai sens de l'Église. Alors avons-nous ce désir d'être des partenaires dans le travail de l'annonce et la défense de la bonne nouvelle de Jésus, ici à la Garenne, dans les communes avoisinantes, sur nos lieux de travail, là où Dieu nous place dans la semaine, dans nos églises respectives, si vous venez d'autres églises ce matin. Avons-nous envie que nos partenaires dans le travail, nos frères et sœurs, ressemblent de plus en plus à Jésus? Que Dieu soit loué et glorifié au jour de son retour à cause de ce qu'il a fait dans leur vie. Voulons-nous devenir ces partenaires-là? Je vous invite à la prière. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, de ce que c'est toi qui as commencé cette œuvre en chacun de nous. Notre confiance n'est pas en nous-mêmes, c'est ton esprit, c'est ta parole qui nous a amenés à toi. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas la persuasion d'un homme, mais c'est ton esprit, c'est ta parole. Et Père, nous voulons te demander de continuer cette œuvre en nous, de nous faire persévérer jusqu'à la fin. Aide-nous à te connaître, à avoir une vraie connaissance relationnelle de toi. Aide-nous aussi à avoir cette intelligence morale, de discerner là où les choses ne vont pas. Et donne-nous l'humilité de nous en repentir, là où nous avons besoin de nous en repentir. Et Père, aide-nous à être solidaires les uns avec les autres dans ce travail de l'annonce de l'Évangile. Aide-nous à être axés sur cette grâce, ce message de paix, de grâce. Aide-nous à avoir des yeux fixés sur Jésus. Aide-nous à être solidaires les uns avec les autres dans ce travail difficile, mais merveilleux. Au nom de Jésus. Amen.